Vous êtes sur RTL. 30.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, un service hospitalier menacé de fermeture qui convoque les candidats à la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Dans ce journal également, ces deux premières mises en examen dans l'affaire Jérémy Cohen. Et puis c'est Pâques ce week-end, Pierre Herbulot continue de nous faire saliver dans les coulisses de l'un des meilleurs chocolatiers de France.
À 9 jours du second tour, notre dernier sondage BVA, Emmanuel Macron l'emporterait dans 9 jours précisément avec 54% des votes, mais les électeurs jugent Marine Le Pen plus proche et plus sympathique. Et à 12h50, cocaïne et rugby, ça peut vous étonner. Le magazine L'Équipe publie une grande enquête sur cette drogue qui se banalise chez les pros comme chez les amateurs.
Notre question du jour, elle concerne pas que préférez-vous comme chocolat. Eh bien, c'est le chocolat noir qui a les faveurs de nos auditeurs à 65%, 35% pour le chocolat au lait. La météo, c'est avec vous Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Comme prévu, on va avoir un grand et beau week-end.
Ouais, ça commence aujourd'hui. J'ai quelques nuages dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Vraiment très très peu de choses. On pourrait aller jusqu'à l'averse sur le relief des Alpes du Sud ce soir. C'est dire s'il y a de l'activité. Température très très douce, bien au-delà des normales. 20 degrés à Rouen aujourd'hui, 21 à Clermont-Ferrand et à Tarbes, 22 à Paris, 25 pour Bordeaux et Marseille, 27 à Perpignan. C'est à peu près pareil pour demain, dimanche et lundi avec des températures qui vont fléchir un peu.
Merci beaucoup et à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc cette crise de l'hôpital qui s'invite dans la campagne présidentielle. Les personnels du service immunopathologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris appellent Marine Le Pen et Emmanuel Macron à venir les rencontrer mardi à 14h30. Ce service de pointe, sans équivalent en Île-de-France et qui traite des maladies rares mais aussi certains cancers, est en effet menacé de fermeture. Le problème, Odile Pouget, c'est qu'il manque d'infirmières de nuit.
Oui, il en faut 12 pour que ce service très spécialisé qui prend en charge des malades atteints, notamment de leucémie, de lymphome, puissent continuer à tourner. Eh bien aujourd'hui, elles ne sont plus que 2, dont une infirmière qui a annoncé son départ pour cet été. La situation est donc critique. Le docteur Nathan Peffer-Smadja est concerné à double titre. Il a été interne dans ce service il y a longtemps et en début d'année, il y a été admis comme patient et il rend hommage à ses infirmières de nuit.
C'est le premier contact qu'on a en tant que patient quand on appuie sur la sonnette qui marque, c'est l'humanité, la bienveillance, l'empathie. On s'y sent vraiment extrêmement bien comme patient, extrêmement bien suivi, extrêmement bien encadré. On s'y sent en sécurité. Savoir que de nombreux patients ne pourront plus avoir accès à ça, eh bien, c'est vrai que ça brise le cœur.
En cause, comme dans beaucoup d'autres services hospitaliers, un manque d'attractivité, une prime jugée dérisoire de 9,63 € par nuit pour compenser la pénibilité du travail. Depuis un an, il y a eu beaucoup de départs, mais les postes restent vacants. Et c'est grâce à la bonne volonté des infirmières de jour pour combler les trous que le service a tenu jusque-là. Mais là, disent les médecins, ce sont les soins qui ne vont plus pouvoir être assurés. D'où cet appel au secours lancé aux candidats.
9,63 € la prime de nuit. Merci à vous, Odile Pouget, spécialiste santé ici à RTL.
Les candidats à la présidentielle interpellés ce matin sur un autre sujet.
Cette polémique autour du salaire du patron de Stellantis, 19 millions d'euros, on le rappelle. Choquant, répondent Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Chacun toutefois a sa solution. Emmanuel Macron d'abord.
C'est choquant, c'est excessif. Il faut mener le combat en européen pour qu'on ait à un moment donné des rémunérations qui ne peuvent pas être abusives. Je pense qu'il faut à un moment se donner des plafonds et avoir une gouvernance pour notre Europe qui rende les choses acceptables. Sinon la société, à un moment donné, explose.
Emmanuel Macron sur France Info TV ce matin. Bonjour Martial Youx.
Bonjour.
Plafonner les salaires au niveau européen, est-ce que c'est possible?
Ça fait penser un peu à l'idée de François Hollande en 2012, qui devait plafonner les salaires des PDG et les encadrer avec une taxe à 75%. On a bien vu que ça ne pouvait pas se mettre en place. Là, c'est pareil, c'est très difficile de plafonner le salaire de patron à la tête de groupes mondiaux. Avec 19 millions, Carlos Tavares, il joue au niveau des patrons de General Motors, de Ford, de Volkswagen, même si ces dernières années, Volkswagen a un peu baisser ses rémunérations à cause du Dieselgate. Et quand Air France KLM était allé chercher son nouveau PDG Ben Smith au Canada, le groupe avait dû accepter de le payer 4,5 millions d'euros, c'est-à-dire 3 fois plus que son prédécesseur, un Français. En fait, on voit mal comment tous les Européens à 27 pourraient se mettre d'accord pour plafonner les salaires d'entreprises privées Qui plus est, le niveau habituel de rémunération de patrons en Espagne ou en Allemagne est plus élevé en moyenne qu'en France. Et puis, il faudrait à ce moment-là plafonner tous les salaires dits excessifs, y compris ceux des footballeurs, pourquoi pas. Donc, il existe aujourd'hui un code AFEP-MEDEF en France qui recommande une rémunération raisonnable par rapport au salaire. Et au lieu de plafonner les salaires au niveau européen, qui est compliqué, vous l'avez compris, on pourrait généraliser ce qu'on appelle la loi Sapin 2, qui est une loi française qui oblige les dirigeants à faire voter leur salaire en assemblée générale. En cas de vote négatif, le salaire est rejeté. C'est ce qui s'est passé avec Carlos Tavares cette semaine. Sauf que Stellantis n'est pas une entreprise française, c'est une entreprise des Pays-Bas.
Merci à lui, chef du service économie de RTL. De son côté, Marine Le Pen, elle propose la création d'une réserve légale de titres.
Oui, bien sûr que c'est choquant. Bien sûr que c'est choquant. Je pense que dans des sociétés telles que celle-là, il faut réfléchir à un concept qui serait une sorte de réserve légale de titres, qui serait partagée par tous les salariés à égalité.
Mais comment vous allez les contraindre, c'est-à-dire quand quelqu'un comme Carlos Tavares...
Arrêtez avec la contrainte. Je suis pour l'incitation, pas par la contrainte.
Ça va se faire gentiment.
Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ?
Marine Le Pen sur BFM TV ce matin, la candidate du Rassemblement National qui s'est ensuite rendue sur un marché à Pertuis dans le Vaucluse. Marie Mollet, elle continue clairement de soigner son image.
Oui, effectivement, c'est le but, afficher sa bienveillance vis-à-vis des milieux économiques, montrer qu'elle n'est pas un ennemi des grands patrons, alors que le MEDEF a déjà été très clair en appelant à voter pour Emmanuel Macron. Mardi, elle avait déjà d'ailleurs souligné les très bons résultats de Carlos Tavares à la tête de Stellantis. Mais cette douceur vis-à-vis des patrons du CAC 40 a de quoi surprendre ce matin, car hier soir à Avignon, Marine Le Pen a prononcé un discours dans la plus pure tradition populiste, dans lequel elle a cogné sur l'oligarchie, les élite, l'argent roi et la caste, un discours aux accents de 2017 où la douceur a disparu pour aller séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et les abstentionnistes. C'est précisément le grand écart de Marine Le Pen dans cet entre-deux-tours et son dilemme. Comment séduire la gauche, parler du système et des privilégiés sans effrayer les électeurs de droite? C'est l'équation que Marine Le Pen n'avait pas réussi à résoudre il y a 5 ans.
Marie Mollet dans le Vaucluse pour RTL. Emmanuel Macron qui pourrait, RTL vous le révélait ce matin, recevoir un soutien de taille, celui de Kylian Mbappé. Bonjour Nicolas Georgerot. Bonjour. Ça pourrait prendre quelle forme ?
Ce n'est pas tranché ni même acté. La réflexion existe, mais au moment où l'on parle, il n'est pas certain qu'il y ait un appel clair et net à voter pour Emmanuel Macron. L'entourage du candidat le souhaiterait, oui, c'est évident. Et on l'a dit, on l'a répété, il y a ces contacts réguliers, la connexion est là entre Macron et Mbappé sur plusieurs sujets, que ce soit l'avenir sportif, les projets, les questions de société. Et vu la stature, l'impact médiatique aujourd'hui d'Mbappé, notamment auprès des jeunes, le signal serait fort pour Emmanuel Macron. Un peu à la façon dont cela s'était passé pour la vaccination au printemps 2021, quand le champion du monde s'était fait prendre en photo au moment d'être vacciné, le chef de l'État, en visite à Clairefontaine, ensuite avant l'Euro, l'avait vivement remercié. Une manifestation plus neutre n'est pas à exclure sous forme d'un tweet pour appeler à voter au second tour pour éviter l'abstention. C'est une hypothèse.
Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. Et puis on parlait d'argent et de salaire. Dès le 1er mai prochain, les salariés au SMIC toucheront environ 34 euros net en plus, augmentation automatique de 2,65% liée à la forte inflation enregistrée depuis le mois de novembre.
La guerre en Ukraine à présent et Moscou annonce avoir détruit une usine d'armement dans la banlieue de Kiev.
Réponse, dit la Russie, aux frappes menées hier sur son territoire, réplique aussi peut-être sans doute à l'épisode du Moskva, ce croiseur navire amiral de la flotte russe qui a coulé hier soir. Julien Fautra, comment les Ukrainiens ont-ils fait ?
Eh bien, ils ont caché un lanceur de missiles non loin du rivage de la mer Noire et ont lancé un ou plusieurs, sûrement deux missiles qu'on appelle Neptune, 5 mètres de long, bourré d'électronique, arrivé dans l'armée ukrainienne très récemment, mars 2021, et issu d'une technologie russe. C'est un missile russe qui a été amélioré par un bureau d'études ukrainien. Le tireur, hier, a non seulement visé le navire, mais le dépôt de munitions, précisément, ce qui permet de créer une explosion et que le feu se propage. Comment les Russes se sont fait avoir ? D'abord, leur bateau était trop près du rivage. Plus il est loin, plus il a le temps de réagir au missile qui est lancé. Deux, selon une source, le système de radar n'aurait pas détecté rapidement le missile ukrainien parce qu'il aurait été leurré, c'est la ruse. Et trois, un système de défense antimissile défectueux sur le navire, par exemple, ne s'est pas déclenché ce qu'on appelle un mur d'obus, un millier d'obus lancés instantanément qui forment un mur dans le ciel et contre lequel le missile ennemi vient se fracasser. Quelle que soit l'option, c'est une humiliation pour l'armée russe.
Julien Fautra du service étranger de RTL. Les suites de l'enquête après la mort de Jérémy Cohen, ce jeune homme de confession juive, tué en février dernier après avoir été percuté par un tramway. Les deux hommes interpellés cette semaine ont donc été mis en examen et écroués, Guillaume Chiez.
Oui, tous deux âgés de 23 et 27 ans se sont présentés de leur plein gré mardi aux enquêteurs. Ils ont expliqué la chronologie des événements. Une première scène de violence envers Jérémy Cohen dont le motif n'est pas encore déterminé. Puis une seconde, celle qui a été filmée, largement diffusée sur Internet, qui s'est déroulée quelques instants avant que le jeune homme ne prenne la fuite et soit mortellement fauché par un tramway. Un seul des deux suspects était présent lors de cette seconde scène. Il a été mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'autre est inculpé pour un motif moins grave, celui de violence volontaire en réunion. Le parquet précise qu'à ce stade, aucune raison antisémite n'a été révélée par l'enquête.
Guillaume Chiez du service police-justice de RTL.
Et puis, bien sûr, c'est Pâques ce week-end.
Dernière ligne droite chez tous les chocolatiers de France. La période, on le rappelle, est cruciale pour eux, 15 à 25% de leur chiffre d'affaires. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Alors vous nous avez fait saliver toute la matinée, ça continue. Vous êtes rendu à Colombes chez Jean-Paul Évin, meilleur ouvrier de France.
Oui, j'ai passé 4 heures ce matin pour assister au rush de dernière minute en compagnie de Pierre Sevin, c'est lui qui supervise la production. Dans le laboratoire, ça fait déjà 2 mois que ses équipes, une trentaine de salariés, préparent Pâques et répètent encore et toujours les mêmes gestes, comme pour faire les fameux œufs. Devant une fontaine de chocolat au lait, Pierre Sevin et un moule en polycarbonate.
Moi, j'ai juste à prendre le moule et je le passe sous la fontaine, je le remplis complètement.
Oh, c'est magnifique.
Je le retire, je le tapote, et éventuellement si on a des bulles d'air, je le retourne.
Vous enlevez l'excédent de chocolat.
C'est ça.
Vous avez dû le faire 2-3 fois ce geste pour Pâques.
On va dire des milliers de fois même.
Et même 30 000 fois.
30 000
en
fois
2 mois. Ouais, c'est ça, exactement. 200 kilos de chocolat qui sont transformés là-bas chaque jour. Je vous en ai rapporté quelques-uns.
Ah, voilà. Bah on va pouvoir goûter. Merci beaucoup, Pierre. Vous préférez chocolat noir ou chocolat au lait ?
Chocolat noir, je vais le prendre. Ah, mais je rappelle également que Pâques est une fête religieuse.
Ah, mais bien sûr.
Évidemment. Et que toute la chrétienté aujourd'hui célèbre la passion du Christ, puisqu'il avait été trahi par son disciple Judas le vendredi, qu'il est accusé, le Christ, de semer le désordre par ses enseignements et surtout d'usurper le titre de Messie, et qu'il sera crucifié dans l'après-midi du vendredi avant de renaître, d'être ressuscité plus exactement le dimanche de Pâques. C'est le jour le plus important pour toute la chrétienté aujourd'hui. Il est 12h42, on va marquer une pause et nous allons évoquer le sondage BVA. Emmanuel Macron l'emporterait dans 9 jours avec 54% des votes devant Marine Le Pen.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro. Présidentielle 2022.
J-9.
Et à 9 jours du second tour de cette présidentielle, notre nouveau sondage BVA, donc pour RTL et Orange. Le premier de cette entre-deux-tours, Emmanuel Macron est donné gagnant, on vous le disait, à 54%. Alors les jeux sont-ils faits ? Marine Le Pen peut-elle encore inverser la tendance ? C'est le premier débat de RTL Midi. Avec nous Adélaïde Zulfikar-Pazik. Bonjour Adélaïde.
Bonjour.
Directrice du département opinion de l'Institut BVA et Benjamin Sportouf, chef du service politique de RTL. Bonjour,
bonjour
Benjamin. Adélaïde, d'abord 54% pour Emmanuel Macron, 46 pour Marine Le Pen. On est d'accord, on n'est plus dans la marge d'erreur.
Alors, on n'est plus dans la marge d'erreur, on en sort tout juste. Mais en rappelant deux choses, la première, c'est que on est quand même sur un rapport de force qui s'est nettement resserré par rapport au résultat des urnes en 2017. Emmanuel Macron, rappelons-le, a été élu avec 66% des suffrages contre 34% pour Marine Le Pen. Donc, il y avait 30 points, plus de 30 points qui séparaient les deux candidats. Dans ce qu'on mesure aujourd'hui, il y a moins de 10 points. Donc, c'est la première chose. Donc, avantage à Emmanuel Macron, j'ai envie de dire, mais avec un jeu qui est plus ouvert dans un contexte où, attention, il y a encore quelques incertitudes qui planent sur le scrutin. Je pense notamment à la participation et aussi à ce que nous on appelle la volatilité. Ce sont ces électeurs qui nous disent « je vais aller voter, mais je ne suis pas sûr de mon choix, je peux encore changer d'avis, ou je ne sais pas encore », et ils sont encore un quart parmi ces électeurs.
Au-delà des intentions de vote, vous avez interrogé les électeurs sur l'image de chacun des deux candidats. Marine Le Pen est jugée plus sympathique, plus proche des gens, plus qu'Emmanuel Macron et surtout plus qu'elle ne l'était aussi en 2017.
Oui, effectivement, on voit qu'elle a nettement amélioré, lissé son image en 5 ans. Sur toutes ces dimensions que vous avez évoquées, plus de 4 Français sur 10 la jugent sympathique. Elle a gagné près de 10 points sur cette dimension. Ils ont le sentiment qu'elle se, pour 4 sur 10 à peu près, qu'elle défend bien leurs valeurs, qu'elle répond à leurs préoccupations et qu'elle est proche des gens comme eux. C'est vraiment une des dimensions de proximité qui font vraiment défaut au chef de l'État. Autre point à souligner, elle est jugée plus sincère et plus plus rassembleuse que le chef d'État, le chef de l'État. Donc elle a à la fois progressé sur l'ensemble de ses dimensions en 5 ans et également elle est mieux jugée qu'Emmanuel Macron. Mais néanmoins, il y a deux points sur lesquels elle reste vraiment en deçà d'Emmanuel Macron, c'est la question de la stature présidentielle et sa capacité à représenter la France à l'international.
Plus sympathique, plus proche, mais 56% des Français disent qu'ils s'inquiètent de l'avoir élu. C'est bizarre, non ? C'est un peu paradoxal, non ?
Alors, c'est pas complètement paradoxal parce que c'est 56% qui seraient inquiets si Marine Le Pen était élue, mais il faut le voir en comparatif, si je puis dire. On a aussi 43% des Français qui nous disent qu'ils seraient inquiets si Emmanuel Macron était élu. Et vous voyez bien qu'on retrouve presque ce rapport de force des intentions de vote inversé. Et parce que justement, elle a progressé en 5 ans, elle a vraiment amélioré son image, et bien justement, c'est ce qui permet que ce rapport de force se resserre. Donc, c'est pas complètement paradoxal. L'un n'empêche pas l'autre. Et en plus, on a, sur ce 56% que vous évoquez, on l'avait mesuré aussi la semaine dernière, on a une hausse de 7 points sur l'inquiétude. On sent un petit peu qu'on est un peu comme si on était au pied du mur. Maintenant que la question se pose de savoir si elle peut être élue, on sent que ça génère un petit peu plus de crispation et d'inquiétude chez les Français.
La stratégie mise en place par Emmanuel Macron, c'est de stigmatiser entre guillemets Marine Le Pen et de l'étiqueter extrême droite. Cette stratégie-là, ce barrage au fond contre l'extrême droite, est-ce qu'il est efficace auprès des électeurs ?
Ben écoutez, pour l'instant, dans les sondages, en tous les cas, on le voit dans le nôtre, 54-46, avantage à Emmanuel Macron, puisqu'on n'est pas dans la marge d'erreur. Mais cette semaine, j'allais vous dire, finalement, c'était un peu match nul entre les deux, Pascal. C'est-à-dire que le début de la semaine a plutôt été mauvais pour Emmanuel Macron sur les retraites, on n'a rien compris, c'était assez confus. Et même François Bayrou, ce matin, il émettait des réserves sur cette réforme des retraites, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'était assez éloquent. Et puis après, dans la foulée, ben, j'allais vous dire, c'est Marine Le Pen qui a commis des fautes de quart, plusieurs, notamment sur la diplomatie. Donc elle a donné aussi des arguments pour être rediabolisée. Et dans son camp, d'ailleurs, quelques-uns disent que ce n'était pas forcément la bonne stratégie que de faire des conférences de presse sur des points sur lesquels elle n'est pas la plus à l'aise, et notamment sur la
diplomatie. Alors qu'on voyait Emmanuel Macron sur le terrain.
Exactement. Donc c'est vrai que quelque part, elle a donné, j'allais dire, matière à se faire un peu alpaguer et critiquer par le camp adverse. Donc quelque part, c'est vrai qu'elle elle a été rediabolisée parce qu'elle a donné aussi des armes à l'adversaire. Et puis surtout, Éric Zemmour n'est plus dans le paysage, et donc quelque part elle perd ce paratonnerre qu'il a été en termes d'image, et ce n'était pas rien. On le sait à quel point elle est devenue beaucoup plus fréquentable aux yeux des Français, on le voit dans les sondages sur la sympathie qu'elle peut inspirer.
Mais ma question a été un peu plus large. Oui. Lorsque par exemple des sportifs prennent la parole, est-ce que ça a une influence? Est-ce qu'on arrive à le mesurer auprès des électeurs, ou est-ce qu'au contraire les électeurs s'en moquent?
Oh, les électeurs, je dirais, alors s'en moquent complètement, je ne sais pas, mais on est quand même dans un contexte où les gens de plus en plus font leur choix de manière individuelle, et que ce soit les consignes des partis, les consignes des personnalités politiques, ils s'en affranchissent de plus en plus, comme ils se sont affranchis progressivement de leur milieu social en partie ou de leur famille. Donc je ne pense pas que ça joue vraiment, ça peut avoir une petite influence, mais la question que vous posez sur tout à l'heure par rapport à est-ce que le fait que Emmanuel Macron appuie davantage sur la question de l'extrême droite, ça pose la question en fait du report des voix, notamment des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, bien vers sûr, qui tous les yeux sont rivés, parce que c'est là qu'est le plus gros réservoir de voix. Ce sont des gens qui effectivement présentent certaines similitudes à la fois en termes de préoccupations, notamment sur la question du pouvoir d'achat, des retraites, mais aussi en termes sociologiques, et qui pour autant, pour certains, peuvent être plus sensibles à cette question de l'extrême droite. Et on voit qu'aujourd'hui, ces électeurs, ils sont très partagés. Ils sont 1 sur 2 à pour l'instant ne pas vouloir choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, à vouloir soit s'abstenir, soit voter blanc.
Vous parlez des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Mmh.
Ceux qui ont voté Mélenchon au premier tour. Le gros rendez-vous de la semaine prochaine, ce sera ce débat d'entre-deux-tours mercredi prochain. Non, vous faites la grimace quand
non,
je dis gros rendez-vous. Non, ça peut rien changer, Benjamin.
Je sais pas ce qu'on pense à Adélaïde, mais en général, les débats, on les a vus dans les élections précédentes. Ça vient cristalliser quelque chose, ça confirme des tendances, à moins qu'il y ait un accident industriel notable. Mais quand on le voit dans les dernières élections présidentielles, ça n'a fait que confirmer les tendances qu'on avait. Et finalement, ça a joué à la marge.
On dit que ça a été une fois décisif. Alors, en 1974, ça l'aurait été.
Voilà.
Mais autrement, effectivement.
En faveur de Giscard.
Avec
à
le monopole du cœur, mais on était vraiment à 50-50.
Tout à fait, vous avez raison. Donc vous voyez, c'est peut-être pas ça que je dis encore une fois, à moins vraiment qu'il y ait une grande difficulté de celui qui est en tête dans les sondages, en l'occurrence pour l'instant Emmanuel Macron. Mais après, il ne restera que 2 jours et ça aura déjà cristallisé.
Ils vont le regarder, les Français ont l'intention de le regarder, en tout cas, ce débat.
Ils sont plus de 6 sur 10 à avoir l'intention de suivre ce débat, mais je suis d'accord avec Benjamin, en général, ça amplifie des tendances. En 2017, Marine Le Pen, elle était mesurée à peu près à 50, c'était 59-41 avant le débat. Après le débat, Emmanuel Macron l'a emporté beaucoup plus largement parce qu'elle s'était pris les pieds dans le tapis, pour le dire gentiment. Donc c'est vrai que ça joue quand on est sur quelque chose de très très serré, ce qui est moins le cas ces jours-ci.
Ça peut jouer sur l'abstention, vous voyez, c'est quand même sur la participation, peut-être.
Mais j'ai eu le sentiment cette semaine que dimanche, les deux candidats étaient plus proches qu'ils ne le sont aujourd'hui, vendredi. Que cette semaine, l'écart s'était creusé légèrement.
Il s'est creusé, à mon avis, pour deux raisons. Ce qu'évoquait Benjamin sur le fait que Marine Le Pen, en prenant position notamment sur les questions diplomatiques, sur lesquelles non seulement elle n'a pas été très bonne, mais surtout elle n'était pas attendue. C'est pas là-dessus que ses électeurs l'attendent. Donc on sait qu'elle est moins bonne sur ce sujet-là. Donc c'est vrai que c'est un choix un petit peu surprenant. Et puis il y a aussi justement cette prise de conscience, comme je le disais, avec ce 56% d'inquiétude qui a progressé depuis la semaine dernière, qui montre bien qu'il y a, voilà, maintenant qu'on y est, c'est l'heure du choix. C'est aussi pour ça que l'écart c'est desserré.
Des sujets radioactifs, dit-on dans l'entourage de Marine Le Pen. Voilà. Et elle en a vécu le contre-coup.
Eh bien, écoutez, je pense que nous avons été complets et nous allons encore attendre une petite semaine. Vous reviendrez vendredi prochain dernière plaisir. Intervention.
Et, c'est notre rendez-vous du vendredi.
Exactement. Vous souhaitez rester avec nous, monsieur Sportouche?
Ça, c'est d'abord, notre rendez-vous du vendredi.
C'est aussi notre rendez-vous du vendredi. Mais dimanche, est-ce que vous avez votre invité?
Oui, on a l'affiche. Il y aura un débat Louis Alliot face à Jean-Michel Blanquer.
Eh bien, vous allez nous en parler entre 13h et 14h30, justement. Cocaïne et rugby, ça vous a surpris peut-être de lire cela? Vous pensiez que les sportifs étaient des gens
cocaïne et rugby, il n'a pas entendu.
Cocaïne et rugby, vous pensiez que les sportifs avaient une hygiène de vie parfaite? Eh bien, le magazine de l'équipe publie une grande enquête sur cette drogue qui se banalise. Cocaïne et rugby, à tout de suite.
C'est du beau.
RTL. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Et on s'arrête donc à présent sur cette une du magazine L'Équipe qui sort demain. Le rugby sans la poudre, grande enquête sur la cocaïne dans le monde de l'Ovalie. Bonjour Antoine Bourlon.
Bonjour.
Et c'est vous qui signez ce dossier qui sort, je le disais, demain. La cocaïne, écrivez-vous, c'est devenu banal dans le monde du rugby. Ça veut dire quoi? Que tous les joueurs en prennent?
Alors que tous les joueurs en prennent, non, mais que dans le rugby, comme ça peut être le cas dans la société civile, mais surtout dans le rugby, c'est une pratique qui se développe et qui existe à une échelle qui n'avait pas été connue par le passé. Donc avec Alexis Danjon, avec qui j'ai réalisé l'enquête, on s'est rendu compte que dans le rugby professionnel et aussi dans le rugby amateur, il y avait un développement et un peu une banalisation. Et d'ailleurs, un des joueurs dit, ce qui était un petit bédo il y a 15 ans de cannabis peut être aujourd'hui remplacé par la cocaïne. Donc c'est un phénomène qui existe aujourd'hui dans le rugby et qui, pour nous, était important de souligner et d'en parler. Parce que
mais
c'est
ils en prennent pour faire la fête ou ils en prennent pour les performances sportives que ça peut donner?
Alors, il y a plusieurs types de prises. Il y a l'effet troisième mi-temps qui est assez connu et c'est un grand cliché du rugby, mais qui existe vraiment. Cet effet festif, etc. Après, il y a un autre effet dont on a beaucoup parlé dans l'article et dont on a beaucoup parlé avec les joueurs, c'est l'effet un peu qui fait du bien mentalement, qui permet de relâcher la pression et qui permet, que ce soit dans la semaine, de supporter et les charges d'entraînement et les chocs, parce que c'est un sport qui est toujours plus dur en termes de chocs et de contraintes physiques. Donc en fait, c'est tout ça qui amène à la consommation. Mais en fait, il y a deux pratiques. Il y a vraiment ce côté festif-là, donc le week-end en troisième mi-temps. Et ce qu'on remarque, puisque c'est un produit interdit, sauf hors compétition, c'est une prise aussi dans la semaine, notamment en début de semaine, qui permet de relâcher la pression, de se sentir, entre guillemets, mieux. Parce qu'on sait tous les effets dramatiques.
Mais interdit seulement hors compétition. Enfin, il est interdit seulement pendant les périodes de compétition. Ça paraît fou.
Alors la cocaïne, dans les codes mondiaux antidopage, comme d'autres produits par ailleurs, d'autres substances, est interdite seulement en compétition. Donc en fait, on ne peut pas être contrôlé positif à la cocaïne. Enfin, on peut être contrôlé positif, mais on ne peut pas être sanctionné pour une prise de cocaïne, je ne sais pas, le mardi par exemple, suite à un contrôle à l'entraînement. Donc la cocaïne est vraiment un produit qui est interdit en compétition. Et d'ailleurs, les joueurs le savent bien, puisque un des joueurs qu'on a interrogé et qui a avoué être consommateur, était très au fait en fait de combien de temps ça restait dans les urines, de quand il fallait en prendre. Donc c'est une substance, la cocaïne, qui est interdite seulement en compétition, donc les joueurs qui sont consommateurs peuvent aussi s'adapter en fonction de cela.
Mais ce qui est étonnant avec les sportifs de haut niveau, qui ont toujours un rapport particulier à leur corps, c'est que tu abîmes ton corps, tu peux pas prendre de la cocaïne toujours le temps et toute ta vie sans risque extrêmement important.
Mais ce qu'il y a avec le sport de haut niveau, et c'est pas quelque chose qu'on remarque uniquement dans le rugby, mais pour parler du cas du rugby, c'est que c'est un sport qui est extrêmement contraignant par rapport à la vie personnelle, par rapport au choc, par rapport aux charges d'entraînement, par rapport à la pression du très haut niveau. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans tous les sports.
C'est entendu, mais ce que je voulais dire, c'est que tu abîmes ton corps avec de la cocaïne.
Ah oui, mais les joueurs, comme beaucoup de personnes, n'ont pas forcément conscience de tout ça. Et d'ailleurs, on a interrogé un addictologue dont l'interview est à côté du papier, qui explique tous les tas de risques qui peuvent être engendrés par la cocaïne. Mais ça, les joueurs n'ont pas forcément conscience. Et d'ailleurs, ils trouvent eux-mêmes que le problème est partiellement pris au sérieux par ce soit les instances, les clubs, etc. Mais eux, c'est comme un peu une décharge émotionnelle de prendre de la cocaïne. C'est comme ça qu'ils le perçoivent, sans forcément avoir conscience, évidemment, des risques qu'ils prennent en consommant.
Vous racontez ces joueurs qui prennent donc lundi, mardi, mercredi, par exemple, pour être sûr de ne pas être contrôlés positifs pour les matchs du week-end. Il y a des personnes du staff, des clubs, qui disent qu'ils savent que ça circule. Mais on a l'impression que personne ne prend ça très au sérieux. Alors que à vous lire, ça a l'air d'être un vrai sujet.
C'est un vrai sujet. Alors on dit pas que 80% des joueurs professionnels ou amateurs de rugby consomment de la cocaïne, ça serait exagéré. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est un problème qui existe et que c'est un problème qui, dans une certaine mesure, est peu pris au sérieux, que ce soit par les clubs. D'ailleurs, on a un dirigeant qui nous dit que certains clubs s'en fichent complètement de l'état de santé de leurs joueurs. C'est juste un peu de la chair à canon, pour reprendre ces mots. Il y a un peu quelques personnes qui essayent de prendre conscience de ça. On a interviewé Robin Chalewachu, qui est président de Proval, le syndicat des joueurs, qui a conscience du problème. Après, c'est tout un tas de choses qui sont peu prises au sérieux dans le sport de haut niveau, ici le rugby, et la cocaïne en fait partie, que ce soit la santé mentale des joueurs. Et en fait, tout ça fait en sorte que certains joueurs peuvent tomber là-dedans plutôt facilement, parce que c'est, je le répète, c'est un moyen de décompression. Mais oui, les clubs, dans une certaine mesure, prennent pas le problème à bras-le-corps.
C'est cocaïne et rugby, c'est donc à lire demain dans le magazine L'Équipe. Merci beaucoup Antoine Bourlon. Il est 12h59, Merci. Nous marquons une pause et nous sommes avec les auditeurs.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes.
RTL. Il est 13h01.
Jusqu'à 14h30,
les électeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Y a-t-il encore un plafond de verre avec Marine Le Pen? Est-ce qu'elle peut réussir ou non son pari? C'était une de nos discussions dans ce journal. Nous sommes avec Stéphane, bonjour.
Bonjour Pascal.
Quel est votre sentiment sur cette question?
Je pense que le plafond de verre n'existe plus et que Marine Le Pen a de très bonnes chances d'être élue, même si ça sera de manière un score assez court.
Amandine, le rappel des titres.
Et pour l'instant, à 9 jours de ce second tour de la présidentielle, c'est Emmanuel Macron qui est donné gagnant avec 54% des voix. C'est le résultat de notre sondage BVA pour RTL et Orange. Parmi les perdants de cette présidentielle, vous le savez, Europe Écologie Les Verts, qui a d'ailleurs lancé un appel aux dons pour combler le financement de cette campagne. Julien Bayou, le secrétaire national du parti, a fait un premier point ce matin.
En moins d'une semaine, nous avons rassemblé plus de 1,2 million d'euros. C'est un immense premier soulagement, parce que le mauvais score que nous avons réalisé dimanche fait que nous ne serons pas remboursés de plus de 5 millions d'euros. Un déficit très important qui met clairement en péril l'avenir de l'écologie. Si chaque personne qui a voté Yannick Jadot donne 2 ou 3 euros, on peut s'en sortir.
Julien Bayou au micro RTL de Tom Lefebvre. Dans l'actualité également, ce SMIC qui augmentera automatiquement à partir du 1er mai prochain, plus 2,65% en conséquence bien sûr de la très forte inflation de ces derniers mois. Et puis deux hommes mis en examen et écroués dans l'enquête sur la mort de Jérémy Cohen, ce jeune homme de confession juive, mortellement percuté en février dernier par un tramway. Des individus de 27 et 23 ans, donc mise en examen pour violence volontaire en réunion pour l'un, violence volontaire ayant entré.